Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Radio Libertaire pour une nouvelle émission Libre en Lutte. Aujourd'hui, poésie et politique, puisqu'on a le plaisir de recevoir Aurélien Vandal qui vient de sortir ce mois de mars un recueil intitulé « La nuit n'est jamais complète », sous-titre « Quand les poètes refusent de plier ». Bonjour Aurélien.
Bonjour.
Tu n'es pas venu seul puisqu'il y a Emma.
Bonjour.
Bonjour Emma, je ne t'entends pas. Ton micro, c'est...
Est-ce que là, tu m'entends bien? Mieux?
Oui, il faut que tu te rapproches, je pense. Et Aurélien, tu peux me dire bonjour?
Bonjour.
Oui, à peu près. Alors, je commence par les rencontres. Donc, au tout départ, c'était en septembre de l'an dernier, puisque je t'ai croisé, rencontré, sur le festival de la Fête de l'Humain, et tu m'annonces que tu es poète et que tu prépares un recueil sur poésie politique.
Exactement.
Alors, je vais dire la vérité, au départ, je te l'ai dit, je me suis dit, bon, j'espère que ce sera quelque chose de léger, j'avais peur un peu d'un pensum, d'une chose un peu lourde. Bonne surprise, c'est un super bouquin, très réussi. Alors, c'est un beau livre, parce que les poètes, les poèmes sont présentés sur des pages à fond bleu, tandis que les éléments biographiques sont sur des pages blanches. La maquette est très chouette. Et donc, tu as choisi 8 poètes qui ont été engagés d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas comment tu les as choisis. Alors, la suite de la rencontre, eh bien, c'était il n'y a pas très longtemps, donc au mois de mars, au Centre culturel de Vitry, dans le cadre du Printemps des Poètes, puisque tu es venu avec une douzaine de tes amis. Vous avez joliment animé tout ça, donc je crois que tes amis font pas mal de théâtre. Toi aussi, peut-être?
Oui.
D'accord. Donc, eh bien, écoute, je vais te laisser te présenter les études que tu as faites ou, et ton âge.
Ok. Alors, au départ, j'ai fait un cursus en école d'ingénieur, avec l'idée ensuite de partir et, entre guillemets, d'avoir une sécurité, une sorte de stabilité, ce qui n'était pas forcément, en fait, mon idée et mon choix. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, c'était quand même pouvoir... explorer autour de l'écriture, et donc je me suis réorienté, et il y a 2 ans j'ai repris un cursus en études théâtrales à l'université Paris 8, en parallèle j'anime toujours une page de poésie qui s'appelle La parole au poète. Et suite à cette page, une éditrice, Marion Chatizel, chez Albin Michel, m'a contacté avec une idée de livre autour de la poésie qui n'était pas définie. Et c'est là où moi j'ai proposé cet angle-là, parce que d'une certaine façon, pour moi, c'est le seul qui me paraissait vraiment nécessaire aujourd'hui, d'une certaine façon. Et donc, depuis 2 ans, et ça s'est terminé à la fin de l'année dernière, enfin tout début janvier, je travaillais sur ces poètes-là, avec donc ces portraits biographiques et sous ce format-là.
La parole au poète, on peut le trouver comment? Sur Internet, ces papiers?
C'est sur Instagram. Et donc l'idée c'était de... Alors, il y a très longtemps, l'idée c'était pour moi d'avoir des retours de lecture sur mes premiers poèmes, jusqu'au moment où j'ai décidé d'arrêter ça, parce que je me rendais compte que c'était pas forcément ce qui m'intéressait. Et comme il y avait du monde sur cet espace-là, je me suis dit, bah, autant faire lire les poètes que je lis et qui à mon sens mériteraient d'être découverts ou redécouverts, d'autant que à ce moment-là, entre guillemets, ce qu'on appelle le bookstagram n'était pas aussi développé que ça l'est aujourd'hui.
Emma, tu te présentes?
Oui. Donc moi, je m'appelle Emma Koulumbalié-Fogg en entier. Et moi, j'ai fait des études littéraires. Donc j'ai fait une prépa littéraire, tout ce qu'il y a de plus classique. Et aujourd'hui, je fais de l'histoire de l'art. Et bon, pour la petite histoire, Aurélien et moi, on s'est rencontrés au théâtre. On a tous les deux participé pendant un an au Jeune Bureau de la Comédie Française. Donc on a pu rester pendant un an à explorer à la fois l'aspect de l'écriture, du théâtre et de la dramaturgie. Et donc on s'est rencontrés là-bas avec un groupe d'amis qui nous suit plus ou moins. En tout cas, nous deux, on se suit et on est toujours ensemble aujourd'hui. Et donc moi je prête un peu ma voix pour lire des poèmes, ce qui est une de mes activités un peu annexes, parce que voilà, je lis dans des événements littéraires, pour la grande librairie, et donc je suis là pour ça.
Parfait. Alors tu commences dans ton livre en précisant une citation. Tu dis, je cite, « Mandelstam, emprisonné sous la dictature stalinienne, avait écrit « Je suppose que je n'ai pas à me plaindre. J'ai de la chance de vivre dans un pays où la poésie compte. On tue des gens parce qu'ils en lisent, parce qu'ils en écrivent. » Bon, là, il y a un petit peu d'ironie. Je crois surtout pour toi, ça commence en 2024 et tu es un petit peu agacé par les scores du Rassemblement National. Mm-hmm. Et c'est peut-être ça qui est un peu orienté ton choix sur le oui. thème.
Alors, donc c'est pour moi le point de départ d'une réflexion, et c'est la première phrase du livre, qui est de me rendre compte que, donc il y a, à ce moment-là, il y avait des sondages avec des prévisions records de l'extrême droite au niveau des résultats. Et donc il y a eu une grande mobilisation, et notamment sur les réseaux sociaux, avec beaucoup de personnes qui en fait, prenaient la parole et beaucoup d'engagement à ce moment-là. Moi j'étais en école d'ingénieur à ce moment-là, j'étais à Compiègne, donc pas du tout sur Paris, et je voyais ça un peu de loin. Et donc pour moi ça a été presque de la ça a été de la dissonance cognitive de me dire, mais là je suis en école d'ingénieur, ma passion, mon sujet d'étude, c'est la poésie, l'engagement des poètes et des poétesses. Enfin non, ça ne l'était pas à ce moment-là. Et donc de me dire, mais quel sens ça a encore de faire de la poésie aujourd'hui ? Et avec une intuition aussi que la poésie n'était pas du tout déconnectée de la réalité, que les poètes justement sont très... poètes et poétesses sont très incarnés dans le présent. Et donc il y a eu en même temps cette proposition et ce projet, et c'est pour ça que moi j'ai cherché à questionner ces rapports-là sans vouloir arriver effectivement avec une réponse prédéfinie ou comment dire, une théorie qui résulterait de ma réflexion, mais plutôt voilà, chercher à faire un panorama et montrer, enfin pas faire, mais montrer l'étendue de ce qu'a été, de ce qu'ont été les liens entre poésie et politique. Et la citation de Mandelstam, dont je n'ai pas retrouvé, elle est très partagée sur internet, je n'ai pas réussi à retrouver pour l'instant la source dans ces livres. Pour moi, elle est, et c'est un argument qui revient assez souvent quand on parle de d'art politique, c'est-à-dire de dire, bah, au fond, l'art est politique parce que on censure des gens, on en tue dans d'autres pays, et parce que dans une dictature, c'est une des premières choses qu'on interdit. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement que l'art est politique ? Dans quelle mesure il l'est ? Comment il peut agir dans le domaine politique ? Puisque jusque-là, on est sur de la littérature, donc on est dans le champ littéraire au départ. Et donc cette citation, elle est... pour moi, elle est très importante. Elle est dans le contexte de la répression stalinienne. Donc, elle est tout à fait pertinente. Mais je trouve qu'elle est aussi un point de départ pour interroger autre chose.
Alors, c'est vrai que dans ton livre, tu es plutôt cash et tu tiens à restituer la subtilité et les variations des engagements des différentes personnes. Alors, je propose que tu nous donnes le nom de la première poétesse, puisqu'elle a un nom un petit peu compliqué. On peut peut-être commencer après, tout de suite par un poème de cette poétesse, et puis on va revenir sur les éléments biographiques.
D'accord. Alors, donc on va lire un poème de... Emma va lire un poème de Sofia de Mello-Breiner-Andresen, qui est une poétesse portugaise que l'on connaît assez peu en France. Et petite précision, et pour toute la suite, c'est que là, on est dans le livre, j'ai employé le terme poète, malgré le fait qu'il y ait des poètes de genre féminin, parce que dans leurs œuvres, c'est bien le terme poète qui apparaît et pas le terme poétesse.
Donc je vais lire un poème de Sofia qui s'appelle « C'est pourquoi ». Parce que les autres se déguisent, mais toi non. Parce que les autres font preuve de vertu pour acheter ce qui est impardonnable. C'est pourquoi les autres ont peur, mais toi non. Parce que les autres sont pareils à des tombeaux blanchis ou croient la pourriture silencieuse. C'est pourquoi les autres se taisent, mais toi, non. Parce que les autres s'achètent et se vendent, et leurs actes produisent toujours plus de profit. C'est pourquoi les autres sont malins, mais toi, non. Parce que les autres vont à l'ombre des abris, et tu vas bras ouverts à tous les dangers. C'est pourquoi les autres calculent. Mais toi, non.
Eh bien, merci Emma. On part un peu sur sa biographie.
Oui. Alors, donc, comme je l'ai dit précédemment, c'est une poète portugaise. Qui vient au départ d'une famille aristocratique, assez étonnamment, qui écrit des poèmes assez jeunes, qui s'entraîne à signer de sa signature au fond de son bureau, et elle publie un premier poème, un premier recueil de poèmes qui s'appelle Poesia en 1944. Qui est au départ à compte d'auteur et qui est financé par son père qui prend peur parce que ça va pas être un investissement très rentable et finalement les exemplaires sont vendus et assez vite remboursés. Elle l'écrit dans un contexte qui est quand même très particulier et c'est assez déterminant pour la trajectoire de son travail, qui est la dictature de Salazar. Et donc le poème qu'on vient d'écouter s'est écrit aussi dans ce contexte-là, puisque son frère a remporté un concours d'architecture avec un bâtiment qui s'appelle Mar Novo. Et Novo, dans ce contexte-là, s'interprète comme la demande d'un nouveau régime. Il est finalement interdit. Et donc, quand elle dit « c'est pourquoi les autres se déguisent, mais toi, non », il est possible qu'elle parle de son frère ou de son époux, qui a été un avocat, qui a été assez important aussi, notamment le jour de la révolution des œillets. Et donc ce poème vient du recueil qui s'appelle Mar Novo. Que dire de plus ? Elle a eu une seconde partie de sa vie. Donc elle a eu un engagement politique qui a été assez clair sous la dictature de Salazar, en militant notamment pour la libération de prisonniers politiques. Ses poèmes ont été donc censurés, repris ensuite sur scène. Et certains sont devenus des hymnes de la Révolution. Et en 1974, donc après la révolution des œillets, elle siège à l'Assemblée constituante, donc pour établir une nouvelle constituante. Enfin,
constitution.
Voilà, exactement. Et elle ne va pas y rester, notamment parce que... elle trouve que au final, cet endroit-là lui paraît comme un endroit où la parole n'est pas nécessaire, où elle a l'impression de parler dans le vide. Et elle dit dans un entretien que pendant la Révolution et sous la dictature, elle sentait véritablement que la parole avait un poids, était particulièrement nécessaire, là où désormais c'est juste un capharnaüm où plus personne ne s'entend. Et donc elle va se retirer de la politique ensuite.
Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres poètes du recueil, dont Césaire ou d'autres. C'est-à-dire que, autant il y a des moments d'engagement politique, pas forcément électoralistes, hein, ils ont des postes, et puis, surtout peut-être à la fin de leur vie, ça leur dit un peu moins en fait. Ils courent pas forcément après des postes politiques, même s'ils ont eux-mêmes un parcours engagé.
Oui, ça reprend l'idée qu'il y a une tension entre poésie et politique et qu'au fond les deux ne seraient pas conciliables. Sophia dit à la fin de sa vie que sa contribution politique, ça va être... au fond, ces contes pour enfants dans lesquels elle essaye de faire passer ses idées, elle s'en rend compte en sortant un jour de l'assemblée et en voyant un ou une, je ne sais plus, enfant dans la rue qui est en train de lire un de ses contes. Pour Césaire, je dirais que c'est plus ambivalent et que c'est un personnage assez complexe. Parce que, pour le coup, jusqu'à la fin de sa vie, il a eu un engagement politique où il était aussi à la mairie de Fort-de-France. Et il a été aussi à l'Assemblée nationale.
Mais à la fin, il est un peu courtisé par Mitterrand et il refuse de rentrer dans son gouvernement. Bon, il est très âgé, mais...
Alors, je ne me rappelle plus de ça, non. Il faudrait vérifier.
Alors, il y a une chose que je trouve assez marquante, c'est que le jour de la Révolution au Portugal, oui. En fait, elle sait que la Révolution commence parce que passe à la radio une chanson interdite par le régime.
Oui. Une chanson qui est formidable par ailleurs, qui est Grandola Villa Morena. Alors, en fait, il y a eu deux choses. Cette chanson-là, elle a été le signal déclencheur de la révolution de Salazar, mais elle était plutôt dans la nuit, alors que Sophia, on l'appelle en pleine nuit, je crois vers 3 ou 4 heures du matin, on l'appelle pour lui dire « réveille-toi ». La révolution va être lancée et il y a en fait un deuxième signal qui est lancé quelques heures plus tard.
Alors il y a quelque chose que j'apprécie aussi parce qu'elle vante la culture populaire. Elle a écrit « La culture des travailleurs, des pêcheurs, la culture des villages lointains n'est pas une culture mineure. Cette culture populaire, dit-elle, est une graine de révolution qui aidera à dépasser l'usage bourgeois de la culture. »
Alors, ce passage-là, je le trouve assez formidable, d'autant plus dans le contexte dans lequel il a été dit, puisque c'est un discours donc à l'Assemblée. Et elle a eu plusieurs discours comme ça, qu'on peut consulter d'ailleurs en ligne, alors en portugais, mais les références sont dans le livre, et on peut les faire traduire. d'une certaine façon, elle n'était pas très écoutée sur cette vocation-là et sur cette idée que la culture est aussi nécessaire et peut être aussi efficace. On ne la prenait pas véritablement en considération. Mais c'est quelque chose qui traverse toute son œuvre et qui traverse aussi sa vie, puisque il y a des entretiens dans lesquels elle raconte qu'elle passait du temps auprès de pêcheurs, notamment, avec cette omniprésence et cette idée qui revient très souvent de la mer, tout simplement.
Bien. Alors, je ne sais pas ce que Emma a prévu de lire. Moi, j'aimais bien De rage et de fureur, mais tu nous lis ce que tu veux.
Eh bien, on peut lire De rage et de fureur, alors. De rage et de fureur, j'accuse le démagogue et son vocabulaire capitaliste. Mais il faut connaître la sacralité du verbe, porté de si loin par un peuple et dans lequel il déposa son âme en confiance. De si loin, depuis l'origine, l'homme est reconnu par le verbe. Il nomma la pierre, la fleur et l'eau. Et tout est apparu parce qu'il l'avait dit. De rage et de fureur, j'accuse le démagogue, qui croupit à l'ombre du verbe, tirant des mots le pouvoir et le jeu. Il les change en pièces de monnaie, comme on l'a fait des céréales et de la terre.
Merci beaucoup. On passe à Claude Quin, si vous voulez bien. Et alors, je ne connaissais pas Sophia, Claude Quin, pas beaucoup plus. Et alors, ce qui est très sympa dans le livre, c'est que vraiment les éléments biographiques aident à s'attacher à la personne. Ça met un peu une perspective. Et ça fonctionne très bien, en fait, avec les poèmes. Donc, elle était résistante sous l'occupation, dans l'île de Jersey, parce qu'elle avait un peu fui l'occupation allemande. Donc elle était homosexuelle. Elle a toujours eu la même compagne, qui a été importante aussi dans sa résistance. Elle a connu tout un tas de poètes, Philippe Soupeau, Henri Michaux, Robert Desnos, grande amitié avec lui, et tous les surréalistes. Elle a correspondu avec Antonin Artaud, elle a connu Aragon, etc. Et je te laisse nous parler d'elle.
Oui, alors il y a plein de choses là dans ce qui vient d'être dit sur le fait qu'elle est considérée ou non comme résistante. En fait, je crois que dans le livre, j'emploie plus le terme de résistance artistique parce que il y a une sorte d'activisme artistique à dimension très fortement politique, effectivement, pendant l'occupation à Jersey. Mais après la libération de l'île, elle peine énormément avec Suzanne Malherbe, puisqu'elles sont deux et que leur travail a une vraie dimension collective aussi, à la fois dans le travail, leur travail photographique, qui est la raison principale pour laquelle on connaît Claude Quin aujourd'hui, mais à la fois aussi dans cette forme de résistance artistique qui consiste à rédiger des tracts. Ou des sortes de papillons surréalistes, à les glisser dans des boîtes de cigarettes un peu partout dans l'île pour les faire voyager. Et l'idée derrière étant de faire croire aux Allemands qu'il y avait des réfractaires parmi eux qui prenaient la désertion. Pour cela, elles seront dénoncées, puis torturées. Leurs biens seront pillés, spoliés. Et donc après la libération, la reconnaissance de l'État française, elle vient très tardivement. elles ont très peu de dédommagements financiers. Grosso modo, elles se débrouillent par elles-mêmes et elles ont finalement une sorte de reconnaissance, mais pas du tout celle qu'elles espéraient, en recevant notamment une médaille en papier. Donc, résistante, oui, mais... et voilà, la question de la reconnaissance, elle m'avait interrogé parce que de ce que j'ai compris et recherché au moment de l'écriture, elles n'ont pas été reconnues comme résistantes parce que elles n'étaient pas dans les réseaux de résistantes, enfin de résistance. Claude Carin a un engagement qui est assez proche de l'anarchie, je dirais. Même s'il y a des passages à certains moments, c'était un peu l'époque où
mais je voudrais bien qu'on évoque l'histoire, l'affaire à Aragon, etc. Je veux bien en parler un petit peu. D'abord, on se lit un okay. petit poème.
Alors, j'ai choisi de lire Exercice sur deux notes. Qui est une sorte de long poème en prose. Cloison étanche. Eux. Ce que je trouve le plus admirable dans la passion n'est pas ce que vous croyez. Je me sacrifierais volontiers pour les hommes. Oui, pour tous les hommes, mais baiser celui-là ou celui-ci comme un frère, jamais. Je me ferais bien crucifier pour eux, pourvu qu'aucun d'eux ne touche à ma peau. P. Je suis femme. Et la pitié me met en goût de consoler, de faire l'amour. Mais comme, après tout, je suis un homme et prompt à mordre, méfie-toi, cela ne va pas sans quelque brutalité. Réticence. E. Il y a des gens qui vous dégoûteraient de la laideur. P. Ne me défie pas. Je finirai par t'étrangler. En somme, tu as le cou très mince, et on en ferait vite le tour. C'est enrageant de ne pouvoir offrir que ce qu'on a ou que ce qu'on est. Mais on a beau se couvrir et recouvrir de masques, les farder, les regarder, on fait peut-être que grossir la ressemblance qu'accentuer les imperfections du visage caché. Pourtant pour nous, enfin, nous nous lasserions vraiment et vainement de ces jeux. Plutôt surenchérir. Ailleurs aussi, le maquillage est de rigueur.
Alors, je veux bien revenir sur l'affaire Aragon, parce que tout ça, ça illustre le positionnement de Claude Carin au-delà des différents partis, au-delà des conflits. Donc on a une affaire Aragon qui est poursuivie en justice parce qu'il a écrit le poème Front Rouge qui vante l'armée rouge. Donc les surréalistes commencent par le défendre, puis Breton critique ce qu'il appelle cette poésie de circonstance. Ça, c'est un concept intéressant quand même. Et puis Aragon a créé l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, et les surréalistes ne sont pas bienvenus, et ce serait grâce à Claude Carin qu'ils y sont acceptés. Et elle a une phrase intéressante, elle dit « Si j'ai lutté avec des camarades d'extrême-gauche, c'est que cette cause, sans être la mienne, m'apparaît juste. » Qu'elle était la seule qui s'opposait efficacement au racisme hitlérien. Après, très très vite, les surréalistes Mi-33 requittent définitivement l'AER, mais j'aime bien l'idée de Claude Carin d'aller un petit peu au-delà des différents partis et de privilégier l'engagement, je dirais.
Oui, absolument, et c'est ce qu'elle... Là, pendant que Emma le relisait, je reparcourais un peu ces pages-là, et... Elle dit « Le poète s'engage d'autant plus qu'il se désengage. » Et ça, c'est une idée qui en fait, ça pose beaucoup de questions, je trouve, mais c'est une idée qui revient assez souvent chez elle et qu'elle met en... Et elle le dit elle-même, elle la met en pratique pendant l'occupation avec cette idée de... d'être concrètement dans l'engagement Et tous ces débats-là, elle les synthétise aussi à la même époque et pendant ces débats-là avec, avec Aragon, qui lui prône plus une poésie de propagande. Dans son essai « Les paris sont ouverts », et où elle s'aligne finalement sur les positions des surréalistes, donc de Breton et de Benjamin Perret, qui sont plus proches, eux, des trotskistes.
Alors, après, Cain va rejoindre la FIARI, donc c'est la Fédération Internationale de l'Art Révolutionnaire et Indépendant, qui est l'occasion d'un manifeste, donc écrit par Breton et Diego Rivera, au Mexique, avec la collaboration de Trotsky, mais qui ne signe pas le manifeste, et dans lequel on peut lire « Servir la révolution par l'art et défendre la liberté de l'art contre les usurpateurs de la révolution », c'est donc leur but. On se lit un dernier poème, et après je vais tenter de passer une petite pause musicale.
Alors, on va lire plus de peur que de bien. Brouiller les cartes. Masculin, féminin, bon, ça dépend des cas. Neutre est le seul genre qui me convienne toujours. S'il existait dans notre langage, on observerait par ce flottement de ma pensée, je serais pour de bon l'abeille ouvrière. Accommodement du poète avec son infirmité. S'aveugler pour mieux voir. Faire jaillir des étincelles en frappant sur les ténèbres. Frapper sur le silence assourdissant pour s'en faire un ami malléable. Frapper la syntaxe et le rythme et le verbe. Un grand coup pour en tirer l'eau de mort. L'exception confirme la règle et l'infirme également. J'ai la manie de l'exception. Je la vois plus grande que nature. Je vois qu'elle. La règle ne m'intéresse qu'en fonction de ces déchets dont je fais ma pâture. Ainsi, je me déclasse exprès. Tant pis pour moi.
Bien. Alors, petite pause musicale, si ça marche. Donc, du punk, comme traditionnellement dans cette émission. Donc, c'est le groupe Swimming Pool. C'est, j'aime beaucoup. Elle ne chante, Angela, que des poèmes de André Lau, de Lacenaire, Baudelaire, Jules Jouy. Et ça marche très, très bien. Alors, j'ai une nouvelle mixette. Je ne sais pas si je vais réussir à lancer le titre. On va essayer.
Misère à nous le fils et la vie à parfaire.
Donc on va continuer avec Aimé Césaire. Alors là aussi, je trouve qu'il y a un parcours bon, très politisé et pourtant un peu subtil. Donc il commence tôt à s'engager. Au départ, il est dans la Ligue d'Action Universitaire, République et Socialiste. Il relance le journal L'Étudiant Martiniquais qui devient L'Étudiant Noir. La presse a pas mal d'importance dans l'histoire de la poésie. Heureusement qu'il y a eu des titres de presse plus nombreux à l'époque qu'aujourd'hui. Il est revenu en Martinique, il crée une nouvelle revue, Tropique. Et au départ, il est juste sympathisant communiste. Bon, il accepte d'être sur une liste électorale. Il est élu, j'ai l'impression qu'il est un peu surpris. Donc il sera député pendant 50 ans. Il y a des périodes de sa vie où il va écrire un peu moins de poésie. Alors, il fait partie de ceux qui ont voté les pleins pouvoirs au gouvernement de Gaulle en 54. Bon, je pense qu'il a obéi un peu au parti, peut-être. Il va démissionner juste après du groupe parlementaire communiste. Il reste député. Il crée le parti progressiste martiniquais. Donc moi, j'ai retenu qu'il avait refusé de rentrer dans le gouvernement Sarkozy. Et en 2005, il est là-bas. Il y a une visite de Sarkozy qu'il refuse de recevoir. Ça, c'est une présentation du parcours un peu politique. Et ce que j'apprécie dans Aimé Césaire, je vais réemployer le mot, mais je trouve qu'il est assez cash, il est subtil. Alors, c'est plus de la prose, mais j'aime sa finesse, en fait.
Oui, je trouve que là, dans la synthèse que tu viens de faire, il y a toute la tension qu'on retrouve chez Aimé Césaire, qui est une tension entre l'œuvre poétique à laquelle il se dédie aussi, et son travail politique, même s'il n'y a pas de... Il n'y a pas de scission entre les deux. Là, je parle plutôt au sein de sa vie. Dans ses poèmes, il n'y en a pas du tout. Même s'il y a aussi... et là, on va repasser sur le plan littéraire. Dans ses poèmes, il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant qui a été fait par Césaire. C'était un choix. Au moment de son anthologie en 1994, La Poésie, où il a coupé certains vers de ses poèmes politiques écrits dans un contexte donné, qui était aussi un contexte de répression policière et coloniale. Et l'argument qui est donné dans cette anthologie-là, ou la supposition, c'est sûrement pour aller vers quelque chose de plus universel, qui soit plus large, et donc comme si on sortait au fond de la circonstance, et qu'on allait vers une œuvre plus littéraire. Voilà ce que je peux en dire pour le moment.
Alors du coup, Aimé Césaire, c'est plus Emma qui lit, c'est toi ou...
Oui. Alors je vais lire un extrait, parce que ce poème est assez long. Puisqu'on parlait tout à l'heure d'Aragon, de la réponse à Depestre, poète haïtien, élément d'un art poétique. Depestre, donc René Depestre, dont les œuvres complètes viennent d'être rééditées, s'aligne à ce moment-là sur l'idée d'une poésie nationale. Donc après la Seconde Guerre mondiale, prônée par Aragon, l'idée étant de refaire une identité nationale aussi par la poésie. Witch. De Pestre, le poème n'est pas un moulin à passer de la canne à sucre. Ça, non. Et si les rimes sont mouches sur les mares sans rimes, toute une saison loin des mares, moi te faisant raison, rions, buvons et marronnons. Gentil cœur, avec au cou le collier de commandement de la lune, avec autour du bras le rouleau bien lové du lasso du soleil, la poitrine tatouée comme par une des blessures de la nuit, aussi je me souviens. Au fait, est-ce que de sa ligne mignonnée à Vertière, et pour le reste, et que le poème tourne bien ou mal sur l'huile de ses gonds, foutant de Pestre, foutant, laisse dire Aragon. Camarade de Pestre, c'est un problème assurément très grave des rapports de la poésie et de la révolution. Le fond conditionne la forme, et si l'on s'avisait aussi du détour dialectique par quoi la forme, prenant sa revanche, comme un figuier maudit, étouffe le poème. Mais non, je ne me charge pas du rapport, j'aime mieux regarder le printemps. Justement, c'est la révolution et les formes qui s'attardent à nos oreilles bourdonnant, ce sont mangeant le neuf qui lève, mangeant les pousses, de gros hannetons, hannetonnant le printemps.
Merci beaucoup. Je veux bien qu'on passe à Mahmoud Darwish. Alors, il y a 8 poètes et poétesses dans le recueil. On n'aura pas le temps de tous les évoquer. Alors, Mahmoud Darwish, moi, c'est pareil. Ce que je trouve à noter, c'est qu'il est devenu involontairement peut-être un symbole palestinien. Bon, il faut expliquer qu'à 6 ans, il fuit son village qui sera rasé au bulldozer sur lequel on va installer 2 colonies. Bon, il rejoint le Raqqa, la branche du Parti communiste israélien. Dès 16 ans, il est incarcéré. Et donc là, ce qui m'amuse, c'est qu'en 87, il apprend par la radio qu'il est nommé au comité exécutif de l'OLP et qu'il accepte, tu dis, avec réticence. Et vers 2006, quand Arafat lui propose d'être ministre, là aussi, il refuse. Alors, je voulais dire un petit truc, c'est très perso, mais aujourd'hui, on a du mal à parler de ce qui se passe à Gaza, ou même à le regarder en face. Et là, je pense que si des mots ont manqué, moi je me dis qu'aujourd'hui, si on avait eu une place de la Nakba ou une rue d'Ariassine, à Paris ou dans d'autres villes françaises, s'il y avait déjà eu ça, peut-être qu'aujourd'hui, on serait plus capable de parler correctement de ce qui s'y passe. Bon, les mots, ça peut être aussi sur des plaques de rue. Et ben, je te laisse nous parler de Mahmoud Darwish. Pour qui écrire un poème d'amour sous une occupation, c'était déjà une forme de résistance.
Alors, Darwish, c'est pareil, il est assez intéressant, il est assez complexe et ambivalent, de la même façon que Césaire et Sofia de Mello. C'est exactement ce que tu disais, c'est que il a une période qui est qualifiée de poésie de résistance. Mais il cherche aussi à se libérer du politique dans sa poésie. Dans ses entretiens, ce qu'il dit, c'est que il voudrait pas que on regarde sa poésie seulement par le prisme du conflit israélo-palestinien, parce que d'une certaine façon, ce serait considéré qu'on s'y intéresse juste pour ça et que sa poésie n'a pas de valeur. Donc une sorte de non-essentialisation du conflit, de la langue palestinienne dans le conflit. Et il dit, mais la véritable défaite, ce serait que notre langue soit totalement occupée par l'occupant. Donc il y a cette tension-là en permanence entre poésie politique et la volonté de s'en libérer, de pouvoir faire autre chose. Et pour autant, il a une phrase qui est, je trouve, vraiment pertinente, c'est-à-dire plus que le mépris de la... de la poésie politique. J'ai peur de l'écorcher en le citant, mais donc je vais pas le faire. Mais grosso modo, il nous dit que il méprise, enfin, ceux qui ne souhaiteraient pas participer à l'entreprise de l'espoir. Et donc il se désengage pas totalement, enfin, et pas non plus du poème politique. Donc c'est très ambivalent. La meilleure chose à faire, c'est de le relire pour ne pas parler à sa place et pour ne pas reproduire des logiques de « on est en France, on parle de poésie palestinienne et je suis très situé en disant ça ». Il y a aussi une dimension qui est rapportée par Elias Sambar, qui a été son traducteur, qui est que il y a plusieurs dizaines d'années, la poésie d'Arwish a permis de faire entendre une voix palestinienne à l'étranger, alors que des discours plus classiques ne le permettaient pas. Et donc ça fait très écho aussi à la situation actuelle. Et à la fin du livre, je rapporte une parole de Ahmed Achour, qui est un poète palestinien de Gaza, qui dit dans une lettre, la lettre est en deux temps, et il dit d'abord « j'ai haï la poésie parce qu'elle n'arrête pas les bombes, etc. etc. » Et la seconde partie de sa lettre, c'est de dire « mais au final, ça a permis de faire entendre nos voix, et à l'international, vous avez repris nos voix comme des messages d'espoir, et vous avez permis de faire entendre la Nakba, et donc continuer à faire porter cette voix-là. »
Tu nous lis un petit poète, qu'on ait le temps d'aborder une autre poétesse. Il y a À ma mère, peut-être, c'est un des plus courts et des plus connus, qui a eu le plus de succès en Palestine, je crois.
Alors là aussi, c'est un des plus, je crois que c'est son plus connu. Ce qu'il dit dans son anthologie, là je vais pouvoir le citer correctement puisque j'ai la citation sous les yeux. Il dit, mais donc l'anthologie dont je parle, c'est « La terre nous est étroite et autres poèmes » qui est paru en Poésie Gallimard. Et donc il dit, « Mes lecteurs ont ainsi tout naturellement trouvé ma voix dans ma voix personnelle, leur voix personnelle et collective. Mais moi, lorsque j'ai chanté en prison ma nostalgie du café et du pain de ma mère, je n'aspirais pas à dépasser les frontières de mon espace familial. » Donc si je les reproduis là, c'est aussi parce qu'on a l'interprétation de Darwish qui diffère de la simple lecture littérale, ou plutôt de l'interprétation qu'on en fait généralement. J'ai la nostalgie du pain de ma mère, du café de ma mère, des caresses de ma mère, et l'enfance grandit en moi, jour après jour. Et je chéris ma vie, car si je mourrais, j'aurais honte des larmes de ma mère. Fais de moi, si je rentre un jour, une ombrelle pour tes pompières. Recouvre mes os de cette herbe baptisée sous tes talons innocents. Attache-moi avec une mèche de tes cheveux, un fil qui pend à l'ourlet de ta robe. Et je serai peut-être un dieu, si j'effleurai ton cœur. Si je rentre, enfouis-moi, bûche dans ton âtre, et suspends-moi, corde à linge sur le toit de ta maison. Je ne tiens pas debout sans ta prière du jour. J'ai vieilli. Ramène les étoiles de l'enfance et je partagerai avec les petits des oiseaux le chemin du retour. Au nid de ton attente.
Merci beaucoup. Alors, on n'aura pas eu le temps d'évoquer d'autres poètes comme Robert Desnos, Paul Éluard ou Vladimir Mayakovsky. Donc, j'aimerais qu'on place à Madeleine Riffaut, ce qui sera l'occasion de... J'ai très envie d'écouter à nouveau Emma nous lire un poème.
Alors, j'ai choisi, pour terminer mes lectures, un poème qui s'appelle « Pour chanter la joie ». Un jour où j'aurai assez de vivre avec ma peine. Un jour où elle sera trop lourde et voudra m'écraser. Que l'univers entier ne sera plus que boue et brume et fumée d'usine. Moi, je chanterai la joie. Je dirai que je la vois et qu'elle existe. Présente malgré tout comme le soleil derrière les nuages. Dépossédée et solitaire, je crierai que je la vois bien mieux. Je dirai que la joie, c'est un pommier au tronc brisé par l'orage et qui fleurit. Je l'appellerai éveil de printemps et nuage ourlé d'or. Je compterai que l'envol d'un skieur dans la lumière, un rire jeune et clair, entendu dans un jardin, la poignée de main franche de quelques camarades l'ont souvent éveillé et font bondir en moi comme le dos de diamant de la truite hors de la rivière. Oui, plus tard, je chanterai la joie. Aujourd'hui, elle éclate en moi, me brûle et m'exalte. Je me sens pareil au soleil, et le monde entier est jeune et enthousiaste, et le monde entier à mon âge. Plus tard, quand elle m'aura quitté, je chanterai la joie pour me la rappeler. Pourquoi en parlerais-je aujourd'hui, si mes yeux la voient partout ?
Merci beaucoup. Merci. Alors, pour ce qui est d'être engagé, Madeleine Riffaut, on sait que c'est quelqu'un qui a abattu toute seule un officier allemand de sang-froid. Il y a un épisode où, avec des camarades, elle capture 80 soldats. Il y a l'attentat qu'elle subit de la part de l'OAS qui va la blesser gravement, hein, elle aura des séquelles. Elle va rencontrer Ho Chi Minh parce qu'elle ira au Vietnam. Et c'est une vie assez impressionnante.
Alors, effectivement, ça pourrait être un très bon roman. Elle est assez connue en ce moment, notamment parce qu'il y a eu une série de BD dont elle est co-autrice. Qui est par ailleurs très très bien. Donc ça mérite d'être lu et c'est peut-être aussi une des meilleures façons de la découvrir, c'est de lui donner aussi la parole. Voilà, je cherchais le nom du co-scénariste, Jean-David Morvan. Qui est par ailleurs l'ayant droit de Madeleine Riffaut, qui l'a connue pendant plusieurs années et qui a donc coécrit cette BD avec elle. Donc ça, c'est pour l'aspect romancé de sa vie. Après, on fait pas, d'une certaine façon, on pourrait dire, on ne fait pas plus engagé qu'elle. À la fin de sa vie, dans ses derniers entretiens, qu'elle a donné pour Géo-France, je crois que c'était en 2023. Il y a une journaliste qui lui dit à la fin d'un entretien, mais comment est-ce que vous aimeriez que l'on se souvienne de vous et auriez-vous quelque chose à dire, à redire? Et elle dit, mais voilà, j'ai été résistante, mais j'ai été poétesse aussi. Et je trouve ça très intéressant qu'elle rajoute ça après résistante. Parce que souvent, on la résume en disant qu'elle a été effectivement résistante en abattant un Allemand pendant l'occupation, mais elle a aussi toute cette... déjà, elle a écrit des poèmes aussi qui ne sont plus édités, malgré le fait qu'elles ne soient pas encore parues, mais je crois qu'il y a une anthologie qui est en cours. Et puis, elle a eu effectivement toute cette période d'engagement au Vietnam, en Algérie. Elle a croisé Ho Chi Minh aussi, qui a eu un rôle assez déterminant en étant, en la soutenant aussi complètement, mais en étant aussi celui qui va lui dire de devoir rentrer en France. Il a un rôle dans sa relation aussi avec Nguyen Thi, qui est un poète vietnamien qui est un peu considéré comme le poète national au Vietnam. Ils ont collaboré ensemble pour écrire Les baguettes de Jade. Donc dans un contexte où l'amitié franco-vietnamienne était encore très politisée et faisait polémique. D'ailleurs, il y a des lettres de Ti qui sont arrivées au Parti communiste, qui ont dû être brûlées parce que justement c'était illégal à ce moment-là. Donc c'est une vie vraiment passionnante. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle beaucoup souvent de des poètes surréalistes ou de l'engagement politique des surréalistes avec le Parti communiste, mais pour moi, Madeleine Riffaud, c'est vraiment l'incarnation de... Enfin, déjà, d'un point de vue littéraire, on est dans le prolongement de Paul Éluard, Desnos, etc. Puisqu'elle les cite expressément. Elle était amie avec Paul Éluard. Ça, c'est très connu. Mais elle a aussi une œuvre qui mérite vraiment d'être découverte. Et sa vie est absolument passionnante. C'est quelqu'un d'une acuité, d'une précision et d'une pertinence sur tous les conflits qu'elle a traités. Et là, on peut relire aussi ses reportages, puisqu'elle a été reporter de guerre. Il y a un hors-série de L'Humanité qui est paru un an après sa mort, donc là, en novembre dernier. Voilà, il y a plein de choses pour la découvrir et plein de points d'entrée.
Merci beaucoup. Donc cette émission touche à sa fin. Donc je voulais quand même rappeler que le 24 avril, tu viens présenter ton livre à la librairie Livre en Lutte de Vitry. Je voulais rappeler que j'avais fait un podcast qui est encore disponible. C'est l'émission du mois de septembre où on lit des textes de Anne Sexton, de Sylvia Plath, de Ingeborg Bachmann et de Daniel Colobert, entre autres. Et avant de lancer un titre, encore une fois, les Swing Pour... C'est une chanson en français de Maya Angelou. Donc tu as 30 secondes pour me parler de votre activité d'éditeur.
Alors, tu veux présenter ?
Non, vas-y. Vas-y.
Donc on a cofondé avec Emma une maison d'édition associative où on imprime des petites éditions sous forme de plaquettes. Où on publie des jeunes auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices, avec toujours le lien entre texte et image. On a quelques publications, donc ça s'appelle les éditions Les Enfants Terribles. Et donc vous pouvez nous suivre sur Instagram. Et on va continuer à faire des petites éditions comme ça, malgré le fait qu'on va un peu ralentir l'activité.
Eh bien, merci beaucoup à vous deux et à très bientôt.
Merci.
Merci. Les riches ont leur
quand nous chanterons le temps des cerises et guerre au signal et merle moka seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moka. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour, aux robes pareilles, tombant sous la forme en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Vous en serez au temps des cerises. Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. Le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Oui, faites-nous des chansons et faites-nous les belles. Oui, faites-nous des chansons, nous les fredonnerons. Oui, faites-nous des chansons pour nous donner des ailes. Oui, faites-nous des chansons, nous nous envolerons. Si vous envolez, braves gens, aurez bien de la chance. Vous en aurez pas pour votre argent, pas pour votre espérance. Arrive que le chansonneur ait plus rien dans les poches, plus une miette de bonheur, plus une simple croche. Arrive que le rimailleur, là de se faire entendre ailleurs, reste dedans sa chambre, le cœur en